Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'idolâtrie, un thème qui réapparaît tout au long de la Bible.
Nous y réfléchirons en compagnie de Jean-Marc et nous verrons à quel point ce thème, qui peut sembler à première vue démodé, est en fait très pertinent et d'actualité. Bonjour Jean-Marc et bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann et bonjour à tous.
Alors, comment allez-vous aborder ce thème biblique de l'idolâtrie?
Aujourd'hui, nous allons définir ce qu'est l'idolâtrie. Nous nous appuierons bien sûr sur la Bible. Sandra va d'ailleurs nous lire dès à présent le début des 10 commandements, dont la lecture se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 5.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque, de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. »
Cette lecture prouve à quel point Dieu interdit formellement la pratique de l'idolâtrie. Mais rappelez-nous le contexte des 10 commandements et pourquoi ces lois interdisant l'idolâtrie sont si importantes.
Dieu s'était révélé au peuple d'Israël de façon exceptionnelle et remarquable. Il lui avait prouvé sa puissance et son amour en le délivrant de l'esclavage auquel il avait été assujetti dans le pays d'Égypte. L'Éternel avait promis qu'il serait leur Dieu. Il désirait les accompagner dans leur marche à travers le désert jusqu'au pays qu'il avait promis de donner à leurs ancêtres, le pays de Canaan. N'oublions pas toutefois que ce peuple venait de quitter le pays d'Égypte, un pays où les Égyptiens adoraient une multitude d'idoles. De plus, l'idolâtrie était couramment pratiquée par les diverses tribus vivant dans le pays de Canaan, pays où le peuple d'Israël allait s'installer. L'idolâtrie était ainsi présente partout et elle représentait une tentation importante pour le peuple de Dieu. Lorsque le peuple vivait encore en Égypte, Dieu lui avait prouvé que lui seul était vivant et vrai. N'avait-il pas agi puissamment en renversant une à une les idoles égyptiennes? À travers ses jugements, il prouvait que leurs idoles n'étaient que de faux dieux, qu'elles étaient séductrices, trompeuses et impuissantes. Ainsi, cette interdiction formelle de pratiquer l'idolâtrie vise à encourager la loyauté du peuple envers l'Éternel, le seul vrai Dieu, et elle consiste aussi à le protéger des conséquences nuisibles de l'adoration de faux dieux.
Merci Jean-Marc. Pouvez-vous à présent nous donner une définition claire de ce qu'est l'idolâtrie?
Oui, l'idolâtrie consiste à adorer autre chose ou quelqu'un d'autre que le seul Dieu vivant et vrai. L'idolâtrie nous pousse à craindre cette chose ou cette personne au lieu de vénérer Dieu seul. Elle permet que nous laissions cette chose ou cette personne dominer notre vie, alors que nous ne devrions permettre qu'au Dieu vivant et éternel de régner en nous. En bref, l'idolâtrie consiste à donner à cette chose ou à cette personne la place et le rôle qui ne devraient revenir qu'à Dieu seul.
Il serait bon de donner quelques exemples d'idolâtrie vécue à l'époque de Moïse.
À l'époque de Moïse, les gens fabriquaient des idoles à partir de matières telles que le bois, la terre cuite ou les métaux précieux. Ces objets ou statuettes représentaient les divers dieux des forces de la nature. On trouvait par exemple les dieux de la fertilité, qu'il fallait consulter si une femme désirait obtenir leur faveur pour enfanter. On comptait aussi d'autres dieux tels que ceux pour lesquels il fallait faire des offrandes dans l'espoir d'obtenir une bonne récolte. De même, lors de conflits armés, les hommes cherchaient à manipuler des dieux en leur faveur afin de s'assurer la victoire. Ainsi, les gens craignaient les forces de la nature. Ils pensaient qu'en elles résidaient des esprits, et ils désiraient apaiser ou manipuler ces esprits. Ils les adoraient aussi dans le but d'obtenir leur faveur en termes de bonheur, de prospérité, et en temps de crise, ils se tournaient vers eux.
Et qu'en est-il de nos jours ?
Dans certaines cultures, la situation a à peine changé. Beaucoup se tournent encore vers les esprits dans l'espoir d'obtenir ce que leur cœur désire. Ils peuvent être en quête de bonheur, d'une bonne récolte, d'un mariage, de l'arrivée d'un enfant, de sécurité devant la menace d'ennemis, de protection contre la maladie ou la sorcellerie. La présence du monde des esprits rend les hommes esclaves d'angoisses et de mauvaises conduites. Parfois, le culte qui leur est rendu est associé à l'utilisation d'objets les représentant, mais aussi à des sacrifices et des offrandes. Cependant, je voudrais préciser qu'aujourd'hui, l'idolâtrie peut se manifester sous une forme différente encore.
Que voulez-vous dire ?
Il est vrai que beaucoup de gens n'ont jamais eu recours à l'occultisme, ni à l'adoration d'objets représentant de faux dieux. Toutefois, ils peuvent être tout aussi idolâtres.
Expliquez-vous davantage sur ce point.
Réfléchissons aux questions suivantes. Où cherchons-nous notre bonheur et notre joie ? En Dieu ou ailleurs ? Où cherchons-nous notre identité, notre épanouissement ? Où nous tournons-nous en temps de crise, vers Dieu ou vers autre chose ou quelqu'un d'autre ? C'est en Dieu que nous devons trouver notre refuge. Et si nous le recherchons ailleurs, au point de rejeter Dieu de notre vie, au point de le repousser, alors notre attitude est devenue une attitude idolâtre.
Pouvez-vous nous donner quelques exemples pour nous aider à mieux comprendre vos propos ?
Oui. Et à travers ces exemples, nous verrons que les hommes utilisent les bonnes choses que Dieu leur a confiées pour en faire un usage mauvais et qu'elles deviennent dans leur vie une véritable idole. Pour certains, par exemple, l'amour de l'argent domine leur existence à un point tel qu'ils ne pensent plus qu'à cela. Bien sûr, l'argent est nécessaire et il est important de travailler afin de subvenir à ses besoins. Toutefois, si le désir de l'argent nous domine, notre attitude est devenue idolâtre. Si nous croyons que l'argent seul nous comblera et que Dieu ne peut rien pour nous, alors posséder des biens ou de l'argent est devenu notre idole. Si nous cherchons la satisfaction, la sécurité et l'épanouissement dans l'argent seul, croyant qu'il résoudra tous nos problèmes, alors l'argent est devenu une idole. Et bien sûr, d'autres conduites peuvent devenir idolâtres. Si elles dominent notre vie, au point que nous ne donnions plus à Dieu la première place qui lui revient. La recherche excessive du plaisir sexuel, en pratiquant l'immoralité, en est un autre exemple. La soif du pouvoir, d'une bonne réputation, de l'approbation des autres en sont d'autres. Une idole n'est pas forcément un objet devant lequel on se prosterne, mais elle peut tout aussi bien être un désir mal orienté qui domine notre vie, nous éloignant de Dieu et nous faisant sombrer dans des conduites et des comportements mauvais. Si Dieu dénonce l'idolâtrie, c'est parce qu'il sait que cette pratique ne sert pas nos intérêts et qu'elle conduit à notre perte. Or, Dieu nous offre bien mieux. Il nous invite à venir à lui, car c'est en lui que nous trouverons notre véritable bonheur, la sécurité et notre épanouissement. Dieu nous invite à nous détourner de nos idoles pour nous attacher à lui et pour découvrir en lui tout ce à quoi nous aspirons.
Merci Jean-Marc pour vos enseignements clairs et instructifs. À présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique.
Lors des missions précédentes, nous avons médité sur le fruit de l'esprit. Et voilà qu'aujourd'hui, nous reprenons ces émissions.
Écoutons la lecture d'un verset à ce sujet. Il s'agit de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
À présent, Notre invité Patrick va réfléchir sur la qualité de la douceur, telle qu'elle apparaît dans la vie de Jésus. Bonjour Patrick.
Bonjour Hélène et bonjour à tous. Le prophète Ésaïe a parlé ainsi du roi sauveur promis, celui que Dieu allait un jour envoyer. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas, il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre. Ces versets nous dépeignent une qualité, la douceur du Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'a pas cherché à imposer sa vision du monde, ni son autorité ou son règne. Il n'a pas usé ni sa force ni de violence. Adulé par la foule, Jésus ne les a nullement manipulés, afin d'en faire une arme révolutionnaire. Il n'a jamais approuvé ni les assassinats politiques, ni les attentats terroristes que certains de ses compatriotes ou contemporains préconisaient afin de se débarrasser de l'occupant romain. Non, Jésus a enseigné « Aimez vos ennemis » et il appliquait ce qu'il enseignait. De même, dans sa façon d'aborder les gens, Jésus fait preuve de douceur. Il s'est relevé, se brisé par les péripéties de la vie, sans jamais prononcer une parole blessante. Aux personnes ployant sous le lourd fardeau de la culpabilité, il s'abstient de tout jugement, de toute parole de condamnation, pour offrir à la place le pardon de Dieu, un nouveau départ dans la vie et une espérance éternelle. Et lorsqu'il rencontrait des personnes agressives, lorsque ses disciples se comportaient de façon ennuyeuse et décevante, il maîtrisait ses paroles, ses gestes, afin de répondre fermement, avec sagesse, mais aussi avec douceur et patience. Un verset de l'auteur français, La Fontaine, est devenu un proverbe. « Plus fait douceur que violence. » Autrement dit, on obtient plus par la douceur que par la force. Jésus est l'exemple de la valeur d'une personne douce dans un monde violent. Le Saint-Esprit désire aujourd'hui reproduire ces mêmes qualités dans nos vies. Nous en parlerons la prochaine fois.
Merci Patrick. Merci de nous rappeler que Jésus accueille avec douceur tous ceux qui viennent à lui. Il veut relever ceux qui sont brisés et non les condamner. Voilà pourquoi vous pouvez vous tourner vers lui avec confiance.
Nous continuerons nos deux séries la prochaine fois. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.